en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Vous écoutez dans quelques instants l'émission En séance, dans laquelle vous entendrez une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Communication de François Bersani, secrétaire général du Comité pour les métaux stratégiques. Il s'exprimait sur l'avenir du secteur minier traditionnel. Mais tout d'abord, une introduction de la présidente, Madame Bastide Bruguière.
Monsieur Bersani, nous vous remercions d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vos obligations sont nombreuses et vous auriez dû venir plus tôt dans le cours de nos séances, mais des obligations internationales vous ont envoyé au dernier moment ailleurs. Et c'est l'eau qui, à ce moment-là, a remplacé les métaux. Vous allez nous parler de nouveau des mines, des métaux. Vous êtes vous-même ingénieur général des mines. Et en 2009, après 200 ans d'existence, quand le Conseil général des mines a été supprimé, vous êtes entré comme membre, bien sûr, dans le nouveau Conseil de l'industrie, de l'énergie et des technologies qui a été créé. Et en janvier 2011, vous êtes devenu secrétaire général du Comité pour les métaux stratégiques qui venait d'être créé par le ministre de l'Industrie, M. Besson. Ce comité est une structure de concentration, de concertation entre pouvoirs publics et acteurs économiques privés, puisqu'on y trouve la FEDEM, la Fédération des minerais métallurgie, etc., l'Union des industries chimiques, et puis aussi de grandes entreprises telles qu'Areva ou Eramet. Et cet organisme a pour objet de définir une position vis-à-vis de Bruxelles, d'étudier le cas de certaines substances particulières qui paraissent manquer ou pouvoir manquer, d'envisager des programmes et de rechercher des technologies qui permettent l'exploration ou au contraire le recyclage de certains métaux, tout ceci afin de mettre en place une sorte d'économie circulaire des métaux. Et un des problèmes est celui des métaux stratégiques. Je me réjouis dans un certain sens que votre communication ait été retardée parce que dans une communication précédente consacrée surtout aux métaux dits rares et aux terres rares, notre orateur a eu des propos assez critique sur les ingénieurs des mines et sur les travaux du BRGM. Et je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, soit au cours de votre exposé, soit par les questions que nous vous poserons ensuite, vous puissiez rétablir la vérité des faits. Je dois vous dire que notre vice-président, M. Bertrand Collomb, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, avait lui-même, en tant qu'ingénieur des mines, protesté contre ces propos. Donc, je vous laisse, monsieur, la parole et nous vous écouterons avec plaisir sur l'avenir du secteur minier traditionnel.
Madame le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être invité à m'exprimer devant une si haute assemblée sur un sujet aujourd'hui crucial pour l'avenir de nos économies et de nos sociétés. Le gouvernement, comme vous l'avez rappelé, Madame le Président, a récemment marqué sa priorité politique dans ce domaine en créant le Comité pour les métaux stratégiques, dont j'assure le redoutable honneur d'être le secrétaire général. Je dois également vous remercier, en vous présentant à titre rétrospectif mes excuses pour vous avoir fait faux bond à la date initialement prévue, mais effectivement, une réunion internationale qui se tenait par chance à Paris devait se dérouler au même moment. Et nous avons pu, de concert avec nos partenaires allemands, parvenir à un début d'accord sur cette question sur laquelle, je dois dire, nos deux pays sont particulièrement impliqués à l'heure actuelle et peut-être les plus impliqués au niveau européen, en dehors des pays miniers traditionnels que sont la Suède et la Finlande, qui sont restés des pays miniers aujourd'hui. Je vais donc vous parler d'un aspect un peu particulier qui est l'avenir du secteur minier traditionnel. Le titre de cette communication pourrait être perçu en première approximation comme un oxymore. En effet, même si les services et notamment la finance ont perdu de leur superbe, même si la bulle des nouvelles technologies s'est quelque peu dégonflée, quelle peut bien être aujourd'hui, dans un univers économique essentiellement changeant, l'avenir d'un secteur traditionnel, surtout primaire, sinon une disparition à plus ou moins bref délai. D'autant que dans un jugement sommaire, partagé par nombre de personnes, c'est bien ce que la situation française paraît confirmer. L'activité sur le domaine minier métropolitain, le seul auquel on pense immédiatement à Paris, est perçue comme inexistante. Les acteurs français, dont l'un défraie actuellement la chronique, auraient disparu ou seraient peu présents. Les quelques projets de recherche minière envisagés ne peuvent surmonter de virulentes oppositions locales, voire nationales, comme celles suscitées dans l'affaire dite des gaz de schiste. Ce jugement est faux. La France, effectivement, n'est pas le monde, n'en déplaise à notre gloriole nationale. Si les opérateurs français ne sont pas des opérateurs mondiaux dominants pour un ensemble de substances, à l'instar des grands groupes anglo-saxons, russes, chinois, brésiliens ou maintenant suisses, ils sont parmi les premiers dans leur secteur de spécialité, qu'il s'agisse des hydrocarbures, du nickel, du manganèse, de l'uranium ou des minéraux industriels, par exemple. Et enfin, non seulement les activités extractives restent importantes en métropole, notamment le sodium, avec l'exploitation de ce que l'on appelle habituellement le sel, les minéraux industriels, les matériaux de carrière pour le bâtiment travaux publics, mais outre-mer, deux régions françaises peuvent être particulièrement qualifiées de minières, la Nouvelle-Calédonie pour le nickel et la Guyane pour l'or et peut-être demain les hydrocarbures. Après avoir brièvement rappelé l'origine du secteur minier et donc son caractère traditionnel, je vais tenter de vous montrer qu'il s'agit en réalité d'un secteur d'avenir et même, si vous me permettez la formule, en plein boom, une fois encore, bien sûr sous réserve d'adaptation, de changement, mais qui n'affecte pas son caractère traditionnel, puisque depuis son origine même, il a prouvé, mieux que le phénix, sa capacité à évoluer et surmonter les difficultés fréquemment rencontrées, au moins celles rencontrées du fait de la nature. Je ne vous submergerai pas de statistiques, de chiffres, même si je ne suis pas un fervent partisan de Disraeli qui considérait que les statistiques, au moins les anglaises à son époque, étaient pires que les gros mensonges, et mon propos sera essentiellement qualitatif. Je serai néanmoins à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous faire parvenir les données dont vous souhaiteriez disposer dans la mesure où elles me seraient accessibles. Vous noterez que c'est loin d'être établi pour bon nombre d'informations dans ce secteur, et ce n'est pas la moindre des difficultés de mon actuelle mission. Enfin, pour simplifier mon propos et éviter toute discussion sur ce point, j'engloberai les hydrocarbures dans la catégorie dite des substances minérales. Commençons par le caractère traditionnel du secteur minier. S'il est un secteur des activités humaines qui peut être considéré comme traditionnel par lui-même, c'est bien le secteur minier. Tout d'abord, on a en effet découvert que, avant même l'apparition de l'homme, le règne végétal et le règne animal faisaient déjà appel au règne minéral pour assurer par eux-mêmes leurs besoins vitaux en certaines substances. On sait d'ailleurs le rôle que jouent aujourd'hui les engrais pour le développement des végétaux ou certains apports en minéraux dans l'alimentation animale. Mais en ces temps reculés, le règne végétal avait déjà mis au point ses méthodes d'extraction et de traitement des substances minérales afin de les assimiler, en particulier par ses systèmes racinaires. Le règne animal a procédé quant à lui par l'intermédiaire du règne végétal, utilisé comme aliment, pour certains animaux par celui des eaux de surface, chargé en substances minérales par dissolution, comme le milieu marin pour d'autres, voire en faisant directement appel au règne minéral en ingérant ou léchant des cailloux, sinon même peut-être pour certains animaux évolués, à l'instar aujourd'hui du gypaète barbu, en utilisant des cailloux en tant que véritables outils. Surtout puisqu'il s'agit d'une activité humaine, il est établi que depuis la nuit des temps, je devrais dire l'aube de l'humanité, l'homme a fait aussi appel au règne minéral pour satisfaire certains de ses besoins. Ce fut certainement le cas à partir de l'âge de la pierre taillée ou paléolithique. Et même si l'homme se bornait au début à ramasser des cailloux, nous pouvons dire avec notre terminologie moderne, tant juridique que technique, que cette activité était caractéristique des premières exploitations de carrières en découverte ou à ciel ouvert. La tradition est donc fort ancienne. Certains pourraient m'objecter, ce qui est un débat assez classique, que les exploitations de carrières ne font pas partie du secteur minier traditionnel. Pour moi, bien sûr, dont la première affectation professionnelle fut celle d'ingénieur ordinaire des mines, dénomination traditionnelle également, mais aujourd'hui disparue, et qui signifiait en fait en service ordinaire, leur appartenance au secteur minier est indubitable. Et je crois avoir quelques raisons d'espérer trouver au moins quelques alliés, sinon aujourd'hui parmi vous, du moins dans votre auguste académie. Pour dépasser ce débat, sans doute juridique et en tout cas politique plus que technique, sur lequel je suis prêt à revenir si vous le souhaitez, le progrès de l'humanité vient à mon secours. On a pu établir en effet que l'homme a rapidement commencé à sélectionner les cailloux qu'il ramassait, en constatant expérimentalement que certains étaient plus efficaces pour les usages déjà connus, comme la fabrication d'outils divers, ou lui permettaient de nouveaux usages, comme les peintures. Il a également très tôt procédé à leur extraction à partir des affleurements qu'il avait identifiés et non plus seulement à leur simple ramassage. On sait aussi qu'il a assez vite découvert, je devrais dire très vite à l'échelle des temps géologiques et toujours expérimentalement, les premiers traitements des minerais et même ce que l'on appelle aujourd'hui la pyrominéralurgie, par exemple dans ses tentatives de purification des pigments de peinture. Puis, ou en même temps et en divers lieux que l'archéologie minière a permis d'identifier, grâce à l'existence de certains métaux sous forme dite native, c'est-à-dire à la présence dans la nature elle-même de la substance que les chimistes modernes appellent éléments simples, l'homme a commencé à utiliser des métaux. C'est en particulier le cas du cuivre, le plus abondant de ceux que l'on peut trouver sous cette forme native, d'où l'âge du cuivre. C'est également le cas de l'or, mais l'âge d'or est lui quelque peu mythique, plus en tout cas que la toison d'or de Jason, qui tire sans doute son origine de travaux d'extraction d'or alluvionnaire par des techniques similaires à des techniques d'orpaillage encore usitées. C'est aussi le cas de l'argent, du platine, voire du mercure. En perfectionnant sa science ou sa technique, devenue d'ailleurs aussi métallurgie, l'homme a découvert les alliages et justement le bronze, alliage de cuivre et d'étain. Ce fut l'âge du bronze. Sautons quelques millénaires. Au début de l'ère chrétienne, au moins 7 métaux, l'or, l'argent, le plomb, le fer, le cuivre, l'étain et le mercure étaient bien connus et faisaient déjà l'objet d'un commerce international, sans compter le sodium, considéré alors uniquement sous sa forme de sel et qui est commencé à l'origine du salariat moderne. Il provenait alors au moins en partie de ce que nous appelons aujourd'hui des travaux miniers souterrains. Les archéologues miniers, qui disposent également de quelques sources écrites, César, Pline, voire Strabon, sans compter la toponymie, en ont même retrouvé de très modernes, aussi bien dans l'Empire romain qu'en Chine, certes réalisés avec les outils de l'époque et donc relativement peu profonds. Je ne m'étendrai pas plus sur cette histoire du secteur minier dont le caractère traditionnel est donc bien affirmé. Avant d'aborder les temps modernes et d'évoquer l'avenir du secteur minier, il me paraît utile de préciser que par un premier enrichissement contemporain, on assimile maintenant les activités de stockage souterrain aux activités minières extractives. Cette assimilation est d'ailleurs aujourd'hui transcrite dans notre code minier. Elle est très naturelle. En effet, les gisements sont des stockages souterrains que la nature a elle-même créés, comme les gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de dioxyde de carbone, on en exploite en France, de certains composés chimiques, par exemple de l'hydrogène sulfuré qui a été exploité pour le soufre, du chlorure de sodium dont j'ai déjà parlé. Il est donc apparu possible en théorie et réalisable en pratique de mettre à profit les propriétés de certaines formations géologiques, éventuellement après l'exploitation d'un gisement qu'elles pouvaient contenir ou après leur aménagement, pour y stocker par injection depuis la surface des hydrocarbures liquides ou gazeux, des gaz combustibles ou des produits chimiques. Par extension, on peut y injecter aussi des déchets, en articulant le code minier et le code de l'environnement en France, en constituant ainsi des décharges spéciales comme par exemple pour lutter contre l'effet de serre avec le dioxyde de carbone, théoriquement stocké pour l'éternité, voire, mais le projet est encore en phase préliminaire au plan technique, des déchets radioactifs tout particulièrement à vie longue. On peut aussi y stocker de l'énergie sous forme de chaleur ou de froid, qui est la version réciproque de la géothermie, voire sous forme d'air comprimé. Ces activités non extractives lors du stockage, mais extractives lors du déstockage, sont souvent le fait d'entreprises minières qui exercent des activités extractives par ailleurs. Elles sont appelées à un grand développement, comme en France, car si le sous-sol de notre pays, du moins le sous-sol de la métropole, ne paraît plus aujourd'hui contenir d'importants gisements d'hydrocarbures, sous réserve des hypothèses relatives aux hydrocarbures dits non conventionnels, dont j'ai déjà parlé, bien des formations explorées dans l'espoir d'y trouver des hydrocarbures ont été reconnues aptes à la création de stockage. On peut toutefois estimer que ces activités de stockage sortent quelque peu de la notion de secteur minier traditionnel et je n'en parlerai donc pas plus avant aujourd'hui, même si elle représente une part de l'avenir du secteur, tant du domaine minier que des compagnies minières. Enfin, je n'évoquerai que brièvement les activités de récupération et de recyclage. Même si certains opérateurs miniers ont décidé d'abandonner leurs activités extractives traditionnelles pour se concentrer sur ces nouvelles activités, qui à certains égards pourraient également être qualifiées d'extractives, cette extraction m'est apparue comme trop à l'aval des activités minières traditionnelles pour y étendre également mon propos, même si là encore, il s'agit d'un avenir pour les entreprises en cause. Venons-en à un des paramètres fondamentaux qui conditionnent l'avenir du secteur minier traditionnel, l'évolution de la demande. Tout d'abord, si très probablement l'homme ramassa ses premiers cailloux sans bien savoir pourquoi, il ne le fait aujourd'hui que pour répondre à une demande de l'économie. Or, la demande mondiale en substances minérales ou fossiles est globalement croissante. Certes, pour diverses raisons, notamment pour protéger la santé ou l'environnement, certains pays refusent ou réduisent l'emploi de quelques éléments simples ou de leurs composés, tels l'amiante, le mercure, le plomb, etc. Certes, l'évolution de la demande de certaines substances a pu être structurellement modifiée par le recours à d'autres substances pour satisfaire les mêmes usages, les mêmes besoins. Ce fut le cas de la demande de charbon avec les premières découvertes de gîtes contenant des hydrocarbures. Ce n'était pas alors des gisements au sens précis du code minier. Puis le développement de leurs usages énergétiques et chimiques. De même que le charbon avait largement supplanté le bois au début de l'ère industrielle. Mais pour le moment, et de nombreuses années encore selon les prévisions actuelles, la demande de la plupart des éléments du règne minéral est en croissance, parfois forte. Ceci est dû tout d'abord au progrès scientifique et technique, qui a conduit à découvrir de nouvelles propriétés ou mettre en œuvre pour de nouveaux usages des propriétés connues de ces éléments simples ou de leurs composés, mais qui n'étaient pas jusqu'à présent sortis des laboratoires ou même des traités scientifiques anciens. Pour illustrer mon propos, je rappellerai qu'on ne parlait pas beaucoup des terres rares il y a quelques 30 ans encore, sauf parmi les chercheurs et progressivement les bureaux d'études. On sait qu'elles sont de nos jours pratiquement partout dans l'économie, y compris, pour la bien dénommée Europium, dans les billets de banque, et même dans les gros titres de la presse d'information générale et quotidienne. Elles ne sont d'ailleurs pas aussi rares que leur dénomination ancienne tente à le laisser penser. Et cette croissance de la demande mondiale porte non seulement sur les substances à vocation énergétique, les combustibles solides, les hydrocarbures, l'uranium, mais aussi sur les métaux, tels que bien évidemment le fer et les métaux de base, c'est-à-dire en fait ceux consommés en grande quantité, tels que le cuivre, le zinc, l'étain, le plomb, le nickel, mais aussi sur ces métaux que les opérateurs commerciaux, les fameux traders, qualifient de métaux précieux, tout le monde comprend, ou de petits métaux, dans leur jargon les « minor metals ». Certains de ces derniers sont en réalité plus rares et chers que les métaux précieux, dont d'ailleurs quelques-unes desdites terres rares. Cette croissance porte également sur les matériaux dits de carrière, comme les premiers cailloux ramassés par l'homme, mais dont certains ont des usages tout autres que le secteur du bâtiment travaux publics. Quelques-uns sont même tellement rares et utiles qu'ils sont analogues aux substances que notre code minier range dans la classe des mines. Ils bénéficient d'ailleurs souvent en France d'un régime hybride, notamment en dessaisissant le propriétaire du sol. Tout ceci résulte bien évidemment du développement économique et notamment de celui à marche forcée des pays dits émergents. L'avenir du secteur minier traditionnel et sa contribution à la satisfaction des besoins. Cette demande peut en effet être satisfaite depuis longtemps par diverses ressources, en un sens au moins algébrique. D'abord les économies de matière, un exemple illustre est celui de Philippe Lebel reniant les écus qui, par sa force, avaient toujours la même valeur faciale. Par des substitutions de matières, l'âge de cuivre, puis celui du bronze, puis celui du fer ont succédé aux âges de pierre pour les outils. Plus près de nous, l'aluminium a pris une place du cuivre pour la conduction de l'électricité. Les hydrocarbures ont largement supplanté le charbon qui lui-même avait supplanté le bois. Et de plus en plus, par la récupération et le recyclage, ce qu'on appelle les ressources secondaires, concept qui n'est pas non plus bien nouveau, activité qui n'est pas non plus bien nouvelle. Sauf pour certaines substances, par exemple le plomb ou le mercure aujourd'hui, ces ressources sont en général loin d'être suffisantes par rapport aux besoins. Par exemple, si de grands espoirs reposent sur le recyclage, on sait que le taux de récupération des déchets, qu'il s'agisse des chutes de production ou des produits en fin de vie, ne peut atteindre 100%, que l'on peut considérer comme une asymptote ou une utopie motrice. Et parfois, il s'en faudra même de beaucoup pour des raisons non seulement économiques, mais avant tout techniques. On sait également qu'un produit ne devient pas un déchet immédiatement, et c'est heureux. On ne peut donc envisager de recycler certaines des substances qu'il contient que parfois quelques décennies après sa fabrication. Il faudra donc jusqu'à ce moment se procurer autrement que par une boucle, une économie circulaire dont vous avez parlé, Madame le Président, les matériaux nécessaires à la fabrication de ces produits. Ainsi, ce n'est pas avant plusieurs années, voire décennies, que l'on pourra commencer à récupérer le lithium contenu dans des batteries électriques de nouvelle génération ou les métaux, dont des terres rares, contenus dans les aimants permanents équipant les éoliennes que l'on installe depuis quelques années dans les campagnes ou en mer. Certes, le recyclage actuel procure des ressources utilisables dans les fabrications de produits nouveaux, mais en général en quantité bien moindre que celle nécessitée par ces produits nouveaux. Dans une étude récente du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui portait sur 60 métaux, il apparaissait que seuls 18 étaient aujourd'hui recyclés à plus de 50%, dont le fer et la plupart des métaux de base, mais que 34 l'étaient à moins de 1%, dont le lithium et les fameuses terres rares. Il faudra donc continuer d'extraire du sol et du sous-sol de notre planète ce dont nous avons et aurons besoin, ce que l'on appelle les ressources primaires. Aujourd'hui, va-t-on vers une pénurie de ces ressources ? Les ressources que la nature met à notre disposition ne sont à l'évidence pas infinies. Donc ne faudrait-il pas dire, comme certains l'ont préconisé, tel le Club de Rome au début des années 70, « halte à la croissance ». En fait, ainsi que notamment ceux qui ont lu le rapport Meadows le savent, c'est plus le titre de sa traduction française qui a pu conduire à des débats polémiques et parfois caricaturaux sur ce sujet, notamment en France. En réalité, le progrès des connaissances, notamment géologiques, nous conduit aujourd'hui à considérer que si les ressources primaires en substances minérales ou fossiles sont dans l'absolu limitées, la pénurie physique ne nous guette pas vraiment, et ce même pour les substances, a priori les plus rares, d'après les connaissances actuelles, du moins si nous savons tenir compte à temps de leur rareté, telle que prévisible aujourd'hui, et donc veiller aux économies, aux substitutions et à la récupération-recyclage également. Bien sûr, si par exemple les gouvernements de tous les États souverains décidaient au même moment, pour quelque raison que ce soit, de ne plus permettre de nouveaux travaux de recherche de gisements d'hydrocarbures, quels qu'ils soient, et pas seulement ceux que la vulgarisation qualifie de gaz de schiste, cette pénurie physique pour ces substances se profilerait à l'horizon de quelques décennies. Les principaux usages des hydrocarbures étant la chimie ou l'énergie, que se passerait-il dans ces deux domaines ? Nous savons que l'industrie chimique fait appel dès aujourd'hui à d'autres matières premières que les hydrocarbures et dispose d'autres procédés que ceux de la pétrochimie. Et les recherches technologiques déjà conduites par ce secteur, activement poursuivies, ont permis, permettent et permettront certainement de réduire les coûts de production des filières alternatives de façon à ne pas devoir faire supporter à l'économie des coûts inenvisageables hors des situations de pénurie effective, notamment de guerre. Même dans ces situations extrêmes, on sait que sous réserve d'en payer le prix, on peut souvent continuer de disposer de ressources. Quant à l'essentiel de l'usage des hydrocarbures, la production d'énergie, on sait que de nombreux substituts sont possibles, déjà mis en œuvre, qu'il s'agisse du charbon, voire du bois, un certain retour au passé qui n'est pas sans inconvénient sur la question dite du climat, du nucléaire ou des énergies dites renouvelables. L'un des principaux défis actuels est en réalité ce que l'on appelle le stockage de l'électricité. Pour pallier certaines rigidités de cette forme d'énergie, notamment en ce qui concerne son usage dans les transports routiers ou en raison des écarts au moins quotidiens entre sa production et sa consommation. Je relève toutefois que la plupart des filières alternatives aux hydrocarbures, sans compter les progrès enregistrés dans cette filière elle-même, supposent le recours à des substances minérales métalliques bien plus rares aujourd'hui que les métaux de base. Il s'agit justement de ce dont je me préoccupe dans le cadre du Comité pour les métaux stratégiques. C'est un des facteurs quelque peu limitants au développement enthousiaste imaginé par certains pour les énergies alternatives et renouvelables. Pour ce qui concerne d'autres substances que les hydrocarbures, on entend assez souvent dire que si pour le charbon on dispose de près de 2 siècles de réserves, le fer sera épuisé dans moins de 80 ans, le cuivre dans une trentaine d'années, et je vous rappelle que M. Julien vous a dit que le monde devait consommer autant de cuivre dans les 4 prochaines décennies que depuis 3000 ans. L'or dans 15 à 20 ans, comme le terbium, le hafnium, l'argent, l'antimoine, le palladium, le zinc, l'étain, l'indium, le plomb, sinon le tantale. Inutile de souligner que même si vous n'êtes pas familier des multiples usages de ces substances, ces pénuries annoncées ne peuvent qu'être de nature à entraîner de véritables bouleversements dans certains secteurs industriels ou dans les produits finis. En particulier, plus d'écrans plats avec l'indium, plus de pots catalytiques pour certaines voitures avec le palladium. Ces affirmations de pénurie annoncées ne doivent toutefois pas être prises pour plus qu'elles ne sont, c'est-à-dire des évaluations à partir de données statistiques disponibles, dont la valeur scientifique n'est pas toujours bien établie, approchant des réserves de perspectives de consommation établies par des extrapolations du passé plus ou moins récent, mais selon une méthodologie souvent peu détaillée ou contestable, ne tenant en général pas compte, notamment, des évolutions possibles résultant des possibles économies, des substitutions, ni du recyclage. En tout cas, la notion de réserve, essentiellement économique d'ailleurs, ne doit pas être confondue avec celle de ressources. Le progrès des connaissances géologiques, celui des technologies minières, mais aussi, sinon surtout, l'augmentation des cours des matières premières, du moins l'augmentation qui résulte fondamentalement des lois du marché et peut donc être considérée comme durable et non pas volatile, se sont toujours traduits jusqu'à présent par un accroissement des réserves. Voyez ce qui s'est passé pour les hydrocarbures en mer, avant même le développement ces dernières années des exploitations de gisements dits non conventionnels. Avant la Seconde Guerre mondiale, les gisements exploités étaient essentiellement terrestres. Les exploitations en mer se trouvaient par de faibles profondeurs d'eau, dans les bayous de Louisiane, dans le lac de Maracaibo au Venezuela ou à Bakou en Azerbaïdjan. Pour nous, ce fut en 1954 le gisement d'hydrocarbures liquides de Parentis, d'ailleurs un géant européen à l'époque et jusqu'aux découvertes en mer du Nord. Puis au début des années 1970, de nombreuses découvertes furent enregistrées en mer du Nord, pour l'essentiel alors par moins de 200 mètres de profondeur d'eau, au large de l'Afrique, dans le golfe de Guinée, ou au Moyen-Orient, dans le golfe arabo-persique. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières travaillent par quelque 3000 mètres d'eau, à plus de 100 000 des côtes, et la production en mer représente environ 30% de la production mondiale. Pour ce qui nous concerne, une découverte intéressante vient d'être enregistrée au large de la Guyane, à près de 100 000 des côtes justement, et par plus de 2000 mètres d'eau. Des recherches ont également lieu ou ont eu lieu au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large des îles Éparses, situées dans le canal de Mozambique, et dans le golfe du Lion, en Méditerranée profonde, dont l'actualité se fait d'ailleurs l'écho. Mais les hydrocarbures ne sont pas les seules substances que l'on peut trouver dans les fonds marins, c'est-à-dire dans le sous-sol ou le sol du lit des mers, je ne parle pas de l'eau de mer. On connaissait depuis la fin du XIXe siècle les fameux nodules polymétalliques, qui reposent au fond des océans, pour l'essentiel par grande profondeur d'eau, plus de 3000 mètres, voire 4000 mètres. Ils ont fait l'objet de bien des travaux de recherche dans les années 1970-1980, mais si le cadre juridique a été défini par la Convention sur le droit de la mer conclue à Montego Bay en 1982 et ses premiers textes d'application, pour la recherche seulement encore, avec notamment la déclaration de leur appartenance au patrimoine commun de l'humanité, ils ne sont toujours pas exploités pour des raisons techniques et économiques. On connaissait aussi depuis bien des années des extensions de gisements terrestres qui sont ou ont été exploités dans le sous-sol du lit de la mer, en général à partir d'ouvertures de galeries situées à terre. C'est le cas de gisements de charbon, par exemple à proximité des côtes du Canada ou du Japon. Des gisements de fer, au Canada toujours, et même en France, avec l'exploitation de diélettes en Manche. Si le gisement est affleurant ou quasi affleurant, l'exploitation peut être effectuée par dragage. C'est le cas des gisements d'étain en Malaisie, Thaïlande ou Indonésie par faible profondeur d'eau, d'où proviennent aujourd'hui une part importante de la production d'étain, ou de diamants au large de la Namibie ou de la République sud-africaine, aujourd'hui par quelques centaines de mètres de profondeur d'eau. Enfin, plus récemment, des campagnes scientifiques ont mis en évidence l'existence de nouvelles formations polymétalliques. D'une part, les amas sulfurés, ou sources hydrothermales, et d'autre part, les encroûtements. Elles sont situées sur le fond de la mer par grande profondeur d'eau, mais moindres que dans le cas des nodules, 2000 mètres à peut-être 3000 mètres. C'est la raison pour laquelle des entreprises minières commencent à s'y intéresser, l'exploitation en paraissant techniquement envisageable. Plusieurs titres d'exploration pour les amas sulfurés ont déjà été accordés dans diverses zones économiques par les pays qui exercent des droits souverains, ainsi que dans ce qu'on appelle la zone internationale, gérée au profit de l'humanité par l'Autorité internationale des fonds marins, et un premier titre d'exploitation vient même d'être accordé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quant aux matériaux de carrière, ils sont également depuis de nombreuses années pour partie extraits des fonds marins, et ces productions devraient croître afin de se substituer aux exploitations terrestres, dont pour diverses raisons, le développement rencontre de plus en plus de difficultés, j'en dirai un mot. Anecdotiquement, on a même jusqu'à aujourd'hui exploité en France des gisements de calcaire issus du squelette de certaines algues, le merle, comme amendement agricole, mais aussi pour le traitement de l'eau. Cette exploitation prendra fin en 2013, compte tenu d'une disposition législative adoptée en application des conclusions des travaux connus sous le vocable de Grenelle de l'environnement et Grenelle de la mer. Si notre passé est largement issu de la mer, on voit que la prophétie, quelque peu belliciste à l'époque de Guillaume II, « Notre avenir est sur mer », se vérifie au moins pour partie en ce qui concerne le secteur minier. Plus généralement, le développement du secteur minier traditionnel dépend à l'évidence du progrès des sciences et des techniques qu'il met en œuvre. On peut ainsi détecter aujourd'hui des gisements d'hydrocarbures à de très grandes profondeurs dans le sous-sol, même sous des couches géologiques qui restaient jusque-là opaques aux reconnaissances géophysiques, telles que le sel, le basalte, ou dans des configurations géologiques très complexes, comme en témoignent les importantes découvertes au large du Brésil. Mais même si le risque d'erreur se réduit, il ne peut être éliminé, et simultanément, le montant des investissements à consentir s'est substantiellement accru, même si elle peut assurer la fortune de quelques audacieux, parfois visionnaires, la recherche minière n'est habituellement pas une partie de plaisir pour amateurs impécunieux. Les techniques d'exploitation ont également progressé pour améliorer le taux de récupération, comme en témoignent les productions issues des gisements dits non conventionnels. Et même si en France des restrictions importantes ont été édictées en 2011, cette épithète de non conventionnel est trompeuse, car je rappelle que, par exemple, chez nous, on a exploité depuis le XVIIIe siècle et surtout au XXe des gisements d'asphalte, matériaux connus depuis l'Antiquité puisqu'il a servi à l'étanchéité des jardins suspendus de Babylone. C'est un mélange de calcaire, de silice et de bitume, un hydrocarbure particulièrement lourd et visqueux qui se ramollit entre 50 et 100 degrés Celsius. Ces exploitations ont eu lieu certes de manière traditionnelle, avec des galeries et le pic du mineur, à Pechelbronn en Alsace et Seyssel dans l'Ain. Et depuis le début du XIXe siècle jusqu'en 1957, on a exploité pour leur pétrole les schistes bitumineux d'Autun en Saône-et-Loire. Il en est de même pour d'autres substances. On ouvre des exploitations à très grande profondeur, mais non pas profondeur d'eau, profondeur sous terre, 1000 à 2000 mètres, voire 4000 mètres en République sud-africaine, qui doivent être parfois automatisées en raison des risques, la radioactivité par exemple. On met en œuvre des techniques alternatives de traitement des minerais, comme en particulier la biolixiviation, faisant appel à des micro-organismes qui, depuis la nuit des temps, savent se multiplier en transformant les minéraux. L'avenir du secteur minier traditionnel rencontre quand même quelques difficultés. On voit déjà que si cet avenir peut paraître attrayant, c'est sous réserve de progrès scientifiques et technologiques souvent très coûteux, de mises de fonds parfois colossales, même pour simplement acquérir du domaine minier. Ces difficultés financières ne sont pas les seules qu'il est à surmonter. Je ne développerai pas aujourd'hui les difficultés récurrentes ou traditionnelles qui résultent des comportements des États souverains. Ceux-ci définissent les conditions d'intervention des opérateurs miniers sur leur territoire et peuvent y obérer le développement du secteur minier ou y favoriser le développement de certaines entreprises pour diverses raisons ou par divers moyens qui, sous des apparences parfois renouvelées, sont en fait très classiques en géopolitique. Je ne traiterai pas non plus de la concurrence entre les opérateurs eux-mêmes. Ceux-ci naissent, vivent et meurent comme toutes les entreprises. Certains, et non des moindres, ont disparu alors que leurs concurrents de taille comparable ont survécu, voire les ont absorbés pour se développer. Il me paraîtrait trop rapide, pour ce qui concerne le cas de quelques opérateurs français, d'en inférer, comme certains, une spécificité nationale, une quelconque incapacité structurelle, voire génétique de nos élites, ou une malédiction historique. En effet, si Elf Aquitaine a disparu, le groupe Total, qui l'a absorbé, est dans le peloton de tête des mastodontes du secteur des hydrocarbures. On connaît quelques majors anglo-saxons qui ont également disparu par absorption par tel de leurs concurrents. De petites sociétés, on dirait dans la terminologie établie du secteur des juniors, s'étaient lancées dans l'uranium en France. Elles ont aujourd'hui disparu, leurs actifs ayant assez souvent été repris par celui qui est aujourd'hui Areva, un des premiers mondiaux dans ce domaine. Outokumpu était un grand opérateur minier finlandais qui s'est aujourd'hui retiré de ce secteur d'activité, ses actifs ayant été repris toutefois par le suédois Boliden. Ainsi que je l'ai mentionné déjà, diverses sociétés minières ont décidé effectivement de ne plus investir dans les activités minières, mais de se reconvertir dans le traitement pour le recyclage, autre forme d'extraction. C'est le cas de Metal Europe, société qui résultait de la fusion de Penaroya avec les intérêts miniers du groupe allemand Prosag et qui a pris la dénomination de Recylex pour bien marquer sa nouvelle orientation. C'est aussi le cas d'Umicor, qui résulte essentiellement des fusions progressives des groupes belges Vieille Montagne et Union Minière. Ce dernier détenait jusqu'en 1968 de considérables intérêts miniers au Katanga, dont les Chinois viennent finalement de s'emparer, et de la division des métaux précieux du groupe allemand Degussa. J'évoquerai en revanche un peu plus particulièrement l'une des principales difficultés rencontrées aujourd'hui par le secteur minier, celle dite de l'acceptabilité sociale. On sait en effet qu'une exploitation minière peut faire naître des risques pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique, ce qui a déjà conduit depuis fort longtemps à des interdictions a priori dans certaines zones géographiques. J'en veux pour preuve, avant même le très récent débat, en France du moins, sur les fameux hydrocarbures non conventionnels, l'article 82 de la loi du 21 avril 1810 qui prohibait déjà l'exploitation des carrières souterraines dans l'intérieur de Paris. Mais surtout, l'image de cette activité n'est aujourd'hui pas bonne dans bien des pays. On parle souvent de la malédiction du sous-sol et non plus des richesses minières. C'est bien évidemment le résultat de bien des erreurs passées, des comportements antérieurs des exploitants, des autorités publiques, des drames humains que nous avons pour beaucoup dans nos mémoires, comme celui de Courrières en 1906, ou plus proche de nous, celui de Marcinelle en 1956, voire même celui qui s'est achevé par un heureux sauvetage au Chili qui a tenu en haleine de longues semaines durant le monde entier, des accidents à l'origine de graves pollutions, telles l'éruption du puits Macondoin dans le golfe du Mexique, ou des drames sociaux qui ont affecté de grandes régions lorsqu'il est apparu nécessaire d'arrêter des exploitations historiques, épuisées ou devenues non rentables, comme nos charbonnages, nos mines de fer ou de potasse, qui au surplus étaient pour la plupart publiques. Et même après l'arrêt d'une exploitation, des conséquences dommageables peuvent apparaître, par exemple les effondrements dans l'ancien bassin ferrifère de Lorraine, ou les ruptures de digues d'anciens bassins de décantation en Espagne ou en Roumanie. Mais c'est aussi, du moins pour nous Français, le talent de romancier d'un Zola qui, d'une certaine manière, rend toujours le même mauvais service au secteur minier que celui rendu par Victor Hugo à la pieuvre. Le syndrome NIMBY, not in my backyard en français, qui touche bien des activités de production primaire ou secondaire, se manifeste particulièrement aujourd'hui à l'encontre du secteur minier. On avait cru le conjurer en France, par exemple, en transférant la police des exploitations de carrière du code minier au code de l'environnement, dont l'image, pensait-on, serait meilleure, puisqu'en réalité, les objectifs et les règles à respecter étaient identiques. Las, ce glissement, s'il a pu satisfaire certains sous un aspect politique, n'a su longtemps servir de paravent. Et ce, d'autant que l'argument du principe de précaution, souvent interprété extensivement, peut aujourd'hui être juridiquement invoqué, au moins comme retardant efficace du déroulement des procédures d'autorisation. Ainsi d'ailleurs que la Commission européenne l'a relevé dans divers travaux récents, pour le déplorer, cette situation n'est pas propre à la France. L'actualité nous montre même que dans les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, dans d'autres pays dits encore en développement, les oppositions locales aux projets miniers se multiplient. J'ai participé il y a quelques jours à peine à des journées thématiques organisées par le CNRS à l'École des mines de Paris. Cette question a été évoquée dès l'exposé introductif par un conférencier canadien. On peut penser que ce nouveau défi est particulièrement difficile pour des opérateurs plus habitués à surmonter les obstacles de la nature inanimée que ceux de la psychologie des individus ou des sociétés. Mais je vois pour ma part bien des raisons de penser que le secteur minier traditionnel parviendra progressivement à dégager des solutions, non seulement à force d'explications et de concertations, de transparence dans les pays en développement, mais aussi de progrès techniques. Et si cela peut paraître plus facile dans des pays où l'esprit d'aventure est toujours ou encore présent, à l'instar de l'Amérique du Nord, il ne faut pas désespérer des autres, et notamment de la vieille Europe, quand on regarde les développements de l'activité minière en cours dans les pays scandinaves, par exemple, un des berceaux des terres rares, il est vrai. Pour conclure mon propos, avant de répondre à vos questions, je me bornerai à vous rappeler que Maurice Blondel estimait que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Je crois vous avoir rapidement montré que le secteur minier traditionnel s'efforce de se comporter ainsi. Je vous remercie de votre attention.
C'était En séance, une communication de l'Académie des sciences morales et politiques par François Bersani, secrétaire général du Comité pour les métaux stratégiques. Il intervenait sur l'avenir du secteur minier traditionnel le 20 février 2012.